En cette période qui célèbre l'Europe, Canal Académie a souhaité vivement donner une carte blanche à Françoise Thibault de l'Institut. Françoise Thibault, qui est correspondante de l'Académie des sciences morales et politiques. Une carte blanche sur les femmes d'Europe et sur les femmes de France.
Les femmes d'Europe, les Européennes au sens large, y compris les Américaines du Nord, car les Américains blancs sont des Européens, il ne faut pas l'oublier. Les femmes d'Europe ont encore beaucoup à revendiquer. Elles ont de nombreux sujets de mécontentement, de frustration, de colère. Parmi elles, les Françaises bataillent durement, avec des procédés d'ailleurs très divers, pour la reconnaissance de droits, l'abandon de préjugés et d'inégalités. Tout simplement pour être reconnues en tant que femmes, en tant qu'individus à part entière. Le chemin est long et tumultueux, chargé de l'histoire de siècles sinistres, mais aussi de périodes moins sombres et de grandes diversités selon les lieux géographiques, les types de sociétés et de catégories sociales. Les hommes, c'est bien connu, ont peur de ce qu'ils connaissent mal et de ce qui possède un pouvoir hors de leur portée. Pour maîtriser cet inconnu et leur peur, les hommes asservissent les objets de leur crainte. La nature, les animaux et les femmes. Ils éliminent ou maîtrisent. Or, les femmes sont porteuses d'un inconnu incontournable qui interdit de les éliminer, la perpétuation de l'espèce, le secret de la vie. Donc, ils ne peuvent s'en passer. Alors, l'homme les asservit, les enserre de règles aliénantes, les enferme, les réduisent parfois à une quasi-inexistence pour qu'elles ne leur échappent pas, pour qu'elles ne les dominent pas. Ils leur inventent des pieds minuscules qui ne les portent plus, les parent de crinolines qui les empêchent de passer dans les portes, les affublent d'un régime matrimonial qui leur vole leur nom, leurs biens, jusqu'à leur intégrité physique. Certes, il existe quelques sociétés où les femmes sont dominantes, mais cela est rare et continue d'être présenté de nos jours comme une exception.
On n'a pas d'exemple pointu sur ces sociétés
où quelques femmes... une société de Chine du Sud où les femmes ont plusieurs époux et c'est elles qui mènent la barque. On a ça en Afrique noire traditionnelle également. Il y a probablement eu ça avant la période coloniale en Amérique pré-aztèque. L'exemple contemporain type, c'est la Chine du Sud, où vous avez une société féministe, féminine.
Mais toutes les mentions d'asservissement dont vous parliez, les petits pieds minuscules, les crinolines, tout ça, c'est le passé, Françoise Thibault.
Plus ou moins, mais c'est pas très glorieux. Longtemps considérées comme physiquement faibles parce qu'elles mouraient beaucoup, ou mentalement bécasses parce qu'elles n'avaient pas accès à l'éducation, exploitables au-delà du possible, les femmes se délient progressivement de leur chaîne, mais c'est pénible souvent, long, difficile et très facilement remis en cause. Certes, certaines périodes sont favorables. Dans le passé, par exemple, certaines périodes pour les Romaines, certains milieux médiévaux lorsque les hommes étaient partis à la croisade, une brève embellie révolutionnaire en France, avec toujours cette différence de sort due à la naissance d'abord, à l'accès à l'éducation. Il est absolument révoltant que jusqu'au XXe siècle, l'éducation ait été réservée exclusivement aux garçons. C'est une injustice terrifiante. Également à la fortune et aux héritages. Ne parlons pas du droit britannique, par exemple, des veuves anglaises qui sont exclues presque automatiquement de la succession directe de leurs défunts. Tout est raconté dans Jane Austen, notamment dans Orgueil et Préjugés, où Madame Bennet est terrorisée à l'idée que son époux pourrait disparaître et qu'elle se retrouverait à la rue, exclue de l'héritage au profit d'un lointain cousin, Monsieur Collins, qui d'ailleurs n'est pas très sympathique. Également dans Thackeray, au XVIIIe siècle, vous avez des exemples de succession très très problématiques pour les femmes.
Plus aujourd'hui.
Ah ben non, quand même, les Anglais sont obstinés, mais pas idiots.
Mais revenons à notre temps, Françoise Thibault.
Oui, tout en étant la proie de quelques houles revendicatrices, l'européenne se caractérise cependant par trois traits principaux que je trouve extrêmement intéressants, qui en font un être féminin tout à fait à part. le mariage tardif, en premier lieu, en second lieu, la monogamie matrimoniale, et en troisième lieu, la possibilité d'une longue vie après la période d'enfantement. Alors d'abord, le mariage tardif. En France, à partir du début du XVIIe siècle, hors la caste très limitée de la haute noblesse et des héritiers de souveraineté, il y a peu de mariages d'enfants. Les nobles unissent plutôt, à travers leurs enfants, des terres et des revenus fonciers afin de protéger leur patrimoine, les revenus de ces dits biens et également leur pouvoir dans la durée. Par contre, dans les classes moyennes et paysannes, le mariage est soumis à quelques règles aussi impératives que simples. D'abord, toute relation sexuelle hors des liens du mariage est un terrible péché. Dans un monde pétri de religion et de superstition, cette perspective est un moyen assez efficace de contraception. Ensuite, le mariage est soumis, depuis une ordonnance de novembre 1639, à l'autorisation parentale, au surplus de l'obligation de publication qui, elle, est due à l'ordonnance de Blois de 1592. Cette autorisation parentale, qui éclaire d'ailleurs bien des romans et bien des pièces de théâtre, est liée à l'obligation pour les nouveaux mariés, je cite, « de pouvoir subvenir à leurs besoins sans aide ni assistance ». Le mariage est donc à la fois un sacrement et un contrat, en principe indestructible, qui se présente à la fois comme une protection et une servitude. Ce contexte très familial et quasi-clanique explosera notamment au XIXe siècle avec la naissance d'un monde ouvrier et du départ massif dans les villes, ce qui explique la déchéance dans laquelle se trouveront souvent des femmes dotées d'enfants plus ou moins réguliers sans protection juridique.
Françoise Thibault, voyons maintenant la seconde particularité de cette Europe et ce principe de monogamie.
Oui, c'est peut-être le principe le plus européen et il faut bien le dire qui est totalement commandé par la chrétienté. L'Europe est la chrétienté, il ne faut pas l'oublier, ne jamais l'oublier, ce qu'on a un peu tendance à faire maintenant. Que la chrétienté soit orthodoxe, grecque ou slave, protestante, anglicane, catholique, de quelque version, l'Europe se démarque des autres continents et des autres sociétés par la chrétienté. Alors, ce principe de monogamie qui est véhiculé par ce respect de l'individu qui est dans les principes de chrétienté fait que l'époux en Europe a une seule épouse et pas de concubine, du moins en principe. Les maîtresses royales sont un anachronisme brillantissime dû à une tradition d'obligation de puissance du souverain sous toutes ses formes. Partout ailleurs sur la planète, en effet, quelle que soit l'époque, le territoire et le mode de société, la polygamie est la règle, souvent assortie d'ailleurs de concubinage officiel. Cela dans l'obsession de la perpétuation de l'espèce lorsque on veut bien se rappeler de l'importance de la mortalité infantile. Le mâle doit procréer. C'est la règle en Chine, dans le monde islamique, aux Indes et ailleurs. L'Européen, lui, avec son épouse unique, semble pauvre et limité. Il contourne d'ailleurs assez souvent cette obligation, surtout lorsqu'il est noble ou bien lorsqu'il est dans le contexte colonial. Inversement, de nos jours, les peuples exotiques, sous l'influence occidentale et aussi par nécessité économique, adoptent progressivement des usages plus modérés, tendent souvent à l'épouse unique. Cette monogamie est, elle aussi, une garantie de la modération de la croissance démographique, ce qui assure l'enrichissement collectif, une garantie de moralité et une certitude patrimoniale de non-division excessive de l'héritage. La règle du droit d'aînesse garantit d'ailleurs encore un peu plus cette assurance. La Révolution française, en introduisant en France l'égalité des héritiers, mènera à la division des patrimoines. Cela explique de nos jours le fait que les très riches Français sont souvent des pauvres au regard des nations qui ont gardé le principe du privilège de la primogéniture. L'obligation monogamique connaît encore bien des distorsions. Les latino-américains ont très couramment deux foyers, voire trois. La seule limite est l'obligation d'assurer leur subsistance, si possible de manière à peu près égale. Si l'épouse ou le couple sont stériles, cette règle peut virer au drame, voire au meurtre. Les femmes qui ont joui de cette protection d'exclusivité l'ont aussi payée très cher, souvent au prix de leur vie dans des enfantements interminables. Quelques exemples. Thomas Jefferson, ce grand homme, obsédé par la nécessité d'avoir un fils, a littéralement tué son épouse adorée par des grossesses successives, bien que dangereuses, des fausses couches ou des accouchements aussi répétés que tragiques. Georgiana, duchesse de Devonshire, fut maudite pendant assez longtemps par la naissance répétée de filles, tant qu'elle n'a pas mis au monde un héritier. Et Jean-Sébastien Bach, souvent présenté comme un saint homme, 21 enfants en deux épouses successives, 11 pour la première, elle en est d'ailleurs morte d'épuisement, 10 pour la seconde, et en tout seulement 7 enfants survivants. De nos jours, l'Européen, dont presque tous les nouveaux-nés se portent à merveille, va dans le sens inverse, une limitation volontaire des naissances qui aboutit, finalement, un peu tragiquement, à une dénatalité. Et la règle de monogamie aboutit à ce qui est appelé désormais la monogamie successive. On se marie, on se sépare, on divorce, on paxe, avec d'éventuels enfants de passage, ce qui donne des familles recomposées, qui en elles-mêmes ne sont pas tellement nouvelles, vu la mortalité des femmes dans les siècles antérieurs, mais qui, dans notre monde complexe et pressé, sont difficiles à bien maîtriser. Il n'y a pas si longtemps, le principe religieux était très présent et l'on se mariait pour l'éternité. Mais vu le degré élevé de mortalité des femmes, en couche notamment, cette éternité était parfois fort brève, réduite à quelques années, voire quelques mois. Souvenez-vous de la malheureuse Jeanne Seymour, troisième épouse d'Henri VIII Tudor, obsédée par sa succession, mère du bref Édouard VI, décédé dans la première année de sa royale union. Quant à Napoléon Bonaparte, nous connaissons tous le dilemme impérial. On sait depuis très peu de temps que le sexe de l'enfant est déterminé par l'homme. Combien d'injustices, de malédictions, de meurtres, de répudiations ont-ils été perpétrés au nom de la recherche de la masculinité ? Que de larmes et de désespérance, quel acharnement parfois encore dans l'obscurantisme du cerveau masculin. Peut-on dire que l'obsession masculine de la succession mâle est progressivement contrebalancée par la lucidité et l'obstination de femmes clairvoyantes ? Pourtant, la Chine obscure continue à se débarrasser des filles au grand péril du futur équilibre humain de la Chine.
Donc on a une situation féminine très particulière en vue des différents continents où la femme habite.
Oui. Ces deux caractères créent une situation féminine très particulière, faite d'avantages incontestables, de respect, très souvent, et d'exclusivisme possible, mais assortie d'inconvénients redoutables, d'interdits, de risques vitaux. Soumise à ce système, la femme d'Europe a largement contribué et continue de contribuer à l'enrichissement de l'Europe même, et elle est le modèle de l'émancipation balbutiante de femmes d'autres régions du globe.
Enfin, Françoise Thibault, la troisième particularité du sort de la femme européenne, un côté positif, semble-t-il, la longévité.
Oui, c'est tout à fait exact. La femme d'Europe est autorisée à vivre longtemps, aussi longtemps qu'elle le peut, après la possibilité d'enfanter. Vu les risques des enfantements et la pauvreté de la médecine pendant très longtemps, cette possibilité était, il faut bien le dire, assez souvent illusoire. L'âge moyen des décès des femmes au début du XVIIIe siècle est aux alentours de 35-38 ans, quelle que soit d'ailleurs la catégorie sociale. D'un côté, la pauvreté et l'ignorance, de l'autre, également l'ignorance et l'obligation de procréer. Mais si elle passe l'obstacle, la veuve, la vieille femme, est autorisée à vivre, à continuer à avoir un rôle social, encouragé d'ailleurs par l'organisation collective. Par exemple, la pratique des marraines qui supplaient les mères décédées ont choisi pour marraine une femme plutôt âgée qui n'a plus le risque de la procréation et qui suppléera la mère décédée. C'est d'ailleurs pourquoi la pratique des marraines de nos jours est un rite social sympathique, mais qui n'a plus un rôle aussi important qu'il avait autrefois. Beaucoup de sociétés de par le monde, notamment en Asie ou chez les Indiens d'Amérique, ont eu tendance à se débarrasser des vieilles femmes, les envoyant mourir dans les forêts ou sur la montagne, ou les trucidant d'ailleurs carrément, en tant que bouche inutile à nourrir et décrépitude physique insupportable à gérer.
Parce que la même chose n'était pas appliquée au niveau de la gente masculine.
Non, parce que le vieil homme est un sage dans beaucoup de sociétés. Alors que la vieille femme n'a plus de rôle utile. Enfin, c'est défini souvent comme ça. La femme âgée est un phénomène assez récent. Par exemple, au Japon, qui est actuellement submergé par des petites vieilles très pimpantes qui jouissent de la retraite de leur époux décédé au travail par un burn-out ou un karoshi, c'est-à-dire une mort subite d'épuisement. Depuis fort longtemps, l'Européenne a bénéficié d'une protection juridique dans son grand âge, l'obligation sacrée pour les familles de l'assister et de la considérer. Cette obligation a été reprise par le Code civil et puis, plus tard, par la Sécurité sociale. Ces Européennes âgées ont largement contribué à la construction d'une mentalité d'affranchissement du joug masculin par leurs écrits, leurs discours, leurs expériences. Une fois de plus, le monde ouvrier du XIXe siècle modifiera cette image faisant de l'ouvrière âgée une exception. Il faudra attendre la Première Guerre mondiale et ses immenses conséquences sociales pour que les femmes seules, suppléant les hommes, ayant coupé cheveux et jupes, élevant des orphelins, prennent une place conséquente dans le monde du travail. Voilà ce qui donne à l'européenne une place si particulière dans l'histoire des femmes et dans leur émancipation. Elles sont presque toujours un modèle et juridiquement on peut s'extasier sur le fait qu'elles ont beaucoup d'avance sur les Africaines, les Indiennes, voire même les Chinoises qui, malgré tant de communisme, restent très esclavagées. Encore aujourd'hui, les inégalités sont criantes. Une femme doit toujours être bien meilleur qu'un homme pour être reconnu et respecté. Dans les élites sociales, intellectuelles, économiques, les femmes sont encore souvent conçues comme une minorité revancharde et agaçante. Joachim du Bellay magnifiait le teint de rose des jeunes femmes, pleurait leur vieillesse précoce et leur vie fragile. Mais il était en extase devant cette fragilité et le bonheur que procure la jambe féminine. Souhaitons que les hommes de notre temps se souviennent toujours de l'éblouissement bienfaisant de l'amour des femmes.
Merci Françoise Thibault.
Merci à vous.